Nous voici dans l'histoire de France.
Et pas seulement dans l'histoire de France.
La bataille d'Alger de janvier 1957 et le débat sur la torture.
La fin malheureuse de l'expédition d'Égypte avait renforcé les prétentions du FLN et les radios déversaient des propos délirants. Le terrorisme sévissait considérablement puisque les explosions de ce début de janvier à Alger, à l'automatique, cafétéria et autres, sont, je crois, les 65e, 66e, explosions que les Algérois ont déjà connues et qui ont provoqué des dégâts.
Le général Massu, de son côté, le ministre résident Robert Lacoste, un homme à poigne que le président du Conseil socialiste Guy Mollet avait nommé sous la pression des Européens d'Alger, avait assuré qu'en 1957, c'était ses vœux, on pourrait parler de concorde et d'amitié. La fin de 1956 avait été en effet catastrophique, pendant qu'en Égypte, l'expédition de Suez dirigée contre Nasser par Londres et Paris échouait piteusement. En Algérie, les attentats se multipliaient dans la capitale. Les premiers à leur donner une grande ampleur en utilisant le plastique avaient été des provocateurs d'Algérie française. Ils déposaient en août une bombe dans un immeuble rue de Thèbes et ils firent des dizaines de morts. Le FLN, disposant à son tour d'explosifs, provoqua une forte émotion chez les Européens en s'attaquant à des lieux fréquentés par la jeunesse, la cafétéria, le milk bar qu'évoquait le général Massu. En janvier, le rythme des attentats est devenu insupportable et le FLN, avec ses hiérarchies parallèles, semble en mesure de décréter une grève générale que les lycéens algériens observent déjà dans les écoles. Jusqu'ici, la présence militaire était surtout concentrée dans la partie orientale du pays. Guy Mollet choisit de donner les pouvoirs de police à Alger, à la 10e division parachutiste du général Massu. La confusion du policier et du militaire sera telle qu'on parlera, pour la période impitoyable de répression qui s'ouvre, de « bataille d'Alger ». Dans la deuxième moitié de 1957, l'ordre sera rétabli. Le FLN ira établir son centre de décision plus loin, au Caire ou à Tunis. Les Européens pourront applaudir à chacun de ses passages la voiture de Massu qui a gardé la couleur sable qu'il avait adoptée pendant la campagne de Suez. Mais à la même époque, un autre général se retrouve aux arrêts de rigueur. C'est Jacques de Bollardière, compagnon de la Libération comme Massu, et qui a eu le tort de dénoncer l'usage généralisé de la torture qui a accompagné la bataille d'Alger. Le débat avait déjà été ouvert en 1956. Il est maintenant beaucoup plus large dans un pays qui a encore dans sa chair l'expérience de la Deuxième Guerre.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Raphaël Branche, dont on connaît les nombreux travaux sur l'Algérie. Bonjour Raphaël Branche.
Bonjour.
Un livre sur l'armée et la torture, c'est maintenant l'édition de poche chez Folio. Prisonnier du FLN, un beau sujet aussi chez Payot tout récemment. Vous pouvez nous dresser un portrait d'Alger dont on peut dire, mais c'est trop grossier comme description, que c'est une ville de 600 000 habitants ou plus, avec une population musulmane, comme on disait dans les statistiques d'alors, un peu plus importante depuis peu que la population européenne, comme on disait à l'époque.
Oui, bonjour. Donc, Alger, vous avez raison, c'est une ville tout à fait typique de l'Algérie coloniale dans la mesure où, en tant que grande ville, elle mêle les deux populations. Et en même temps, c'est la vitrine de l'Algérie française. Je pense que ce qu'il faut surtout retenir d'un point de vue symbolique pour Alger, c'est vitrine de l'Algérie française pour les autorités françaises et vitrine de l'Algérie française pour le FLN qui va vouloir attaquer là où ça fera mal.
Mais avec une juxtaposition de quartiers très différents.
Absolument. Donc,
on va parler de la Casbah, mais il n'y a pas que la Casbah qui soit incontrôlable.
Alger a été une ville conquise en 1830 et donc complètement transformée par la France. Donc la Casbah, c'est le cœur initial, le cœur autochtone d'Alger qui bat évidemment et qui vibre avec son petit lacis de ruelles impénétrables, ses impasses, ses maisons très proches. Mais tout autour, on a une ville coloniale, donc avec des grandes rues, des artères commerçantes qui se déploient. Et puis encore au-delà, on a de nouveau beaucoup de populations algériennes et qui sont notamment formées par des bidonvilles qui ont grossi la population d'Alger de manière très impressionnante depuis la fin des années 30, l'après-Deuxième Guerre mondiale. On a un vrai problème d'urbanisme à Alger quand commence la guerre d'Algérie.
Quand commencent les attentats, les officiers qui ont l'expérience de la guerre d'Indochine et qui commencent à théoriser l'idée de la guerre subversive, de la guerre révolutionnaire. Ils ont lu Mao Tse-tung, la théorie du poisson dans l'eau. Ils expliquent qu'il faut prendre des mesures qui correspondent à ce nouvel état de choses où on n'arrive plus à distinguer les suspects algériens des autres Algériens qui seraient peut-être presque tous suspects. Une fois dans l'émission, on aura un extrait du film de Pontecorvo. Mmh. Hein, c'est le film le plus connu qui a beaucoup fixé la mémoire, un film italo-algérien, mais qu'on peut projeter aussi à Washington dans les cercles militaires. Nous sommes à un moment où un officier donne une conférence devant d'autres en utilisant un film, on dirait aujourd'hui, un témoignage de vidéosurveillance.
L'ennemi est rusé et dangereux. C'est un adversaire qui se déplace en surface et en profondeur, avec des méthodes révolutionnaires bien éprouvées et une tactique originale. Allez-y, Martin. C'est un ennemi anonyme, méconnaissable, mélangé à des centaines d'autres. Il est présent partout, dans les cafés, dans les ruelles de la Casbah ou dans les rues de la ville européenne, dans les magasins, sur les lieux de travail. Ça, ce sont des prises de vue effectuées par la police. Les caméras étaient dissimulées aux issues de la Casbah. La police a pensé que ces films pouvaient être utiles. Et en effet, ils sont utiles. Pour démontrer l'inutilité de certaines méthodes. Ou du moins, leurs désavantages. J'ai choisi expressément les films qui ont été tournés dans les heures qui ont immédiatement précédé certains attentats terroristes récents. Et alors, parmi tous ces hommes, toutes ces femmes arabes, se trouvent les responsables. Mais quels sont-ils? Comment les reconnaître? Le contrôle des papiers dans ce cas est ridicule. S'il y en a un qui les a en règle, c'est précisément le terroriste. Notez bien l'intuition de l'opérateur. Il a deviné que dans cette caisse, il y avait quelque chose d'important, caché. Mais nous ne le saurons jamais. Ça va comme ça, Martin.
Les policiers peuvent avoir de l'intuition, mais enfin, il faut qu'ils se mettent peut-être à l'école de l'expérience des quelques militaires qui savent, Raphaël Branche, ce qu'est la guerre subversive.
En tout cas, qu'ils disent le savoir. On a vraiment des militaires qui s'autoproclament spécialistes, théoriciens, et qui se sont autoproclamés comme ça depuis leur retour d'Indochine, pour un certain nombre d'entre eux, de ces officiers, de ces militaires de carrière, et qui vont réussir à avoir l'oreille de Raoul Salan, qui arrive au pouvoir, qui dirige toute l'armée en Algérie depuis décembre 1956. Il faut bien comprendre le rôle de Salan dans le déclenchement de ce qui va se passer à Alger à partir de janvier 57. Et donc, ils obtiennent donc l'oreille de Salan et son aval pour dérouler littéralement leur théorie sur le terrain algérien. Mais il y a beaucoup de choses de ce terrain qui les précèdent, et notamment cette question des suspects, hein, qui date de bien avant eux et qui date du colonial. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qui sont les Algériens, on ne les comprend pas, on n'a pas les informateurs, on n'a pas les réseaux à l'intérieur. Et donc on va avoir une vision de cette foule algérienne comme étant hostile, suspecte et, comme il le dit dans l'extrait, à l'intérieur d'elle, cachée, bien cachée, sournoisement cachée des ennemis.
Le général Massu, qui a été un magnifique guerrier pendant la Deuxième Guerre mondiale, vous auriez tendance à le présenter, puisqu'il se trouvait à la tête de la 10e division parachutiste et qu'il se trouvait être nommé à la tête des autorités de répression par Lacoste et Salan, comme celui qui applique, expérimente ces méthodes qui ont été théorisées déjà par d'autres.
Oui, oui, le général Massu, donc c'est vraiment l'homme de la situation, puisqu'il vient des régiments parachutistes. C'est là, il y a deux divisions parachutistes en Algérie, hein, donc on fait appel aux meilleurs combattants pour mener cette guerre dans la ville. Donc c'est tout à fait original, et on va lui demander effectivement de tester cette nouvelle doctrine de guerre. Donc il n'est pas forcément l'homme idéal, dans la mesure où lui, ce qu'il aime, c'est le barou, hein, mais en même temps, il va faire le travail.
Dans les villages avaient déjà été expérimentés, afin de les contrôler, des dispositifs de fichage qui deviendront des dispositifs de protection urbaine. L'opium et le bâton, un film de 71, un film algérien de Ahmed Rachedi, qui avait commencé, je crois, dans l'unité cinéma du FLN, aux côtés du grand René Vautier. Là encore, un officier, il est interpellé par un de ses hommes sur les méthodes à appliquer.
Alors d'après toi, la spie, on ne peut pas gagner sur les deux tableaux. Il faut perdre ou la guerre, ou son âme.
Ce n'est pas exactement ce que je voulais dire.
Alors la spie, pénètre-toi bien de cette vérité. Il n'est pas question pour moi de perdre la guerre. pour moi, ni pour aucun des officiers sous mes ordres. Messieurs, j'allais justement vous faire convoquer. Il se trouve que vous êtes tous ici. Mon devoir, le vôtre, est d'aller de l'avant. Les Felagas ont des complices parmi les civils. Peut-être ici même. J'ai décidé de parer au danger. J'ai là une liste de 30 noms, 20 hommes et 10 femmes, tous suspects. Il faudra les interroger et obtenir d'eux le maximum de renseignements. Par tous les moyens.
Espace, mon représentant. Bateau.
Vas-y. Rahman Boudjema. Ben Milo Douali.
Ayamchi, Amchi, Aya. Aya Lons.
Saadi Mohamed Ben Ali. Saadi Mohamed Saïd. Lamine Salam. Aït Famlit Smina.
Aya Khafi.
Aït Famlit Wardiya.
Wardiya Akhurji.
Ce qui se fait, Raphaël branche dans les villages, ça peut se faire dans la casbah, donc fichage maison par maison, famille par famille. Si on perquisitionne la nuit et qu'un homme manque à l'appel, oui, il devient suspect, on va le traquer, une fois qu'il l'aura pris, on va l'interroger.
Dans la casbah et aussi dans les bidonvilles, dans les grandes régions, Mayedine, les grands bidonvilles d'Alger aussi, hein, toutes les zones en fait où sont concentrés les Algériens et qui sont très très mal connues des Français. Donc il faut bien voir que l'action des militaires à Alger comme ailleurs en Algérie, elle arrive sur un, non pas un désert, mais un manque administratif français. On n'est pas capable de savoir qui habite dans les villages en Algérie avant l'arrivée des militaires. Donc là, très précisément, effectivement, on va ficher tout le monde dans le but de contrôler à la fois les mouvements, qui bouge, qui va où, les circulations, et puis de repérer les intrus.
Et comme on prend beaucoup de temps pour identifier les suspects, qu'il faut beaucoup de temps aussi pour les arrêter, il faut faire vite pour les interroger. Et le général Massu parle, lui, de questions par force. Il va longtemps utiliser ce mot.
Oui, là, vous faites allusion à l'argumentaire vraiment de base qui est de dire qu'il faut aller vite. Il faut aller vite, il y a une urgence. Et donc, ça a été toujours l'exemple donné d'une bombe qui allait exploser. On avait dans les mains des gens qui possédaient l'information et donc il fallait vite. Donc, cette urgence va justifier évidemment le recours à des méthodes très violentes d'interrogatoire des suspects. Et donc, évidemment, la question, c'est la pratique de la torture. Que le général Massu officiellement réprouve, mais en réalité encourage.
On ne donnera aucun détail ici. Le général Massu dit que ça excite l'imagination. Et il a tout à fait raison, d'une certaine manière, parce que ça provoque, dans l'imaginaire des Algériens, la peur. Et ça, c'est aussi un motif très important qu'on peut avancer pour justifier la torture.
C'est absolument essentiel et à mon avis beaucoup plus important que cette histoire de renseignement. Et ça renvoie à la doctrine de guerre révolutionnaire que vous avez évoquée plus haut, c'est-à-dire que leur projet est d'inverser la peur. C'est-à-dire qu'il s'agit non pas que les Européens craignent les attentats aveugles, mais que les Algériens soient dans la terreur de ce qui peut leur arriver s'ils ne font pas un certain nombre de choses qu'on leur demande de faire, de se comporter correctement, de dénoncer notamment les membres du FLN. Donc bien sûr que cette notion de contre-terreur ou de terreur sur la population, elle est essentielle et c'est là une des clés de la torture. Hein, avec cette violence appliquée sur le corps d'un suspect, en fait, on atteint bien plus.
Mais quand les dispositifs français montrent un peu dans les médias, beaucoup plus dans les unités militaires, les tortures dont se rendent coupables sur les soldats français ou leurs alliés harkis, les membres du FLN. Là, on sème la peur chez les soldats français ou on sème le désir de vengeance? Parce que les tortures de l'autre côté sont documentées, photographiées, c'est terrible aussi.
Alors exactement à la même période, c'est-à-dire sous Robert Lacoste et à cette même époque, effectivement, le gouvernement en général produit des brochures de propagande sur ce qu'ils appellent les aspects véritables de la rébellion algérienne, qui sont plein de photographies prises lors de massacres de populations civiles. Et qui insiste en gros plan, en très gros plan, zoomant sur les blessures par arme blanche notamment. En réalité, c'est quelque chose de compliqué hein, d'utiliser ce type de propagande, parce que comme vous le dites, ça peut évidemment alimenter l'image de l'ennemi comme étant effroyable et dans lesquels, vis-à-vis desquels aucune loi ne peut s'appliquer et qu'il faut absolument réduire. Et en même temps, ça lui donne une forme de force.
Oui, parce que le soldat du contingent, il peut être tenté de baisser les bras et tourner le dos.
Il peut avoir très peur, oui.
Alors, il faut qu'on en vienne maintenant au débat qui est ouvert depuis un moment
on passe peut-être davantage en métropole, vous acceptez le terme, Raphaël Blanche, qui est ouvert depuis un moment, mais qui est seulement sous-jacent dans la presse catholique, dans la revue Esprit, dans le journal Le Monde d'Hubert Beuve-Méry. Le débat sur la torture, il existe, mais il est davantage public à partir du moment où la bataille d'Alger a lieu.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a deux chronologies qui se rencontrent à ce moment-là. Il y a effectivement la répression très spécifique qui a lieu à Alger, vitrine de l'Algérie française, là où se trouvent les délégations étrangères, la presse étrangère. Et donc c'est sous les yeux de tout le monde que se passe cette répression et ces attentats. Et d'autre part, le retour à la fin de l'année 1956 en France des premiers rappelés du contingent qui ont donc vu plein de choses en Algérie et témoignent dans la presse une fois qu'ils sont devenus libres de leurs paroles. Et donc ces textes, ces premiers témoignages sortent à la même période, au printemps 1957, mais témoignent de pratiques qui ont eu lieu dans le bled en 1956. Et donc notamment de pratiques de torture et d'exécutions sommaires. Donc on va avoir des scandales sur les exécutions sommaires et les faux suicides à Alger qui vont faire écho avec ce qu'on peut trouver effectivement dans témoignages chrétiens, dans l'esprit ou ailleurs.
Mais est-ce qu'on a aussi des enquêtes documentées venant d'autres milieux officiels que l'armée, je veux dire les services de police qui ont dépossédé un peu de leur pouvoir. Il y a un secrétaire général de la police à la préfecture d'Alger, les magistrats, il y a un procureur général que François Mitterrand, garde des Sceaux, a fait nommer à Alger parce qu'il a la réputation d'être honnête et indépendant des intérêts des Européens d'Algérie.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est ce qui se passe en janvier 1957, c'est vraiment littéralement les pouvoirs de police remis aux militaires, mais sans les garanties d'action des policiers. Il n'y a pas d'officier de police judiciaire, par exemple, lors des perquisitions dont vous avez parlé. Il n'y a pas de mandat. Donc les gens, les militaires en l'occurrence, pendant quelques mois, ont vraiment plein pouvoir et sont plutôt hors la loi en réalité, mais de manière autorisée. Donc c'est un statut qui est très très exceptionnel, très très extraordinaire et qui choque énormément les hommes qui sont censés faire appliquer le droit et qui donc vont s'en émouvoir. Et on a des traces dans les archives de lettres, notamment au garde des Sceaux.
Alors le secrétaire général Paul Tedjène, il faut le nommer, il a connu la Deuxième Guerre mondiale et les horreurs du nazisme. Il manque de documentation, mais il se plaint. Le procureur général qui a été nommé par le garde des Sceaux, qu'on ne va pas citer une nouvelle fois, Monsieur Roliquet, il dit « mais il me manque l'essentiel de la documentation ».
Il leur manque des informations sur la masse, mais ils ont tout à fait l'idée. Ils habitent là-bas, ils savent exactement de quoi ils retournent. Et donc leur projet, c'est de faire réintervenir le droit dans la guerre. Et donc ils vont lutter pour ça, ils vont obtenir gain de cause au printemps 1957, en avril 1957, pour remettre un petit peu de protection pour les suspects.
Mais enfin, Tedjène aura démissionné entre-temps.
Lui, il a tenté de démissionner fin mars, il a présenté une lettre de démission à Robert Lacoste qu'il a refusée. Donc il reste en poste jusqu'en septembre et il démissionne finalement à la fin de cette grande répression.
Et puis chez les officiers qui n'aiment pas ce que Stendhal appelait la guerre de trognons de choux. Et là, c'est pire qu'une guerre de trognons de choux qu'on mène à cheval contre des ouvriers en 1833. Comment se comporte-t-il ? Alors le général Massu est réputé pour avoir expliqué qu'il s'était fait appliquer la Gégène sur les parties intimes, le colonel Bijard.
Non, pas sur les parties intimes.
Ah, pas sur les parties intimes. Ah, vous êtes très documenté, Raphaël Branche. Oui, parce que ses subordonnés disaient.
Ça aurait fait mal.
Ses subordonnés disaient, on n'a pas mis tout le jus. Bon, mais on sait aussi que le colonel Bijard a veillé à ce que les interrogatoires, par force, soient dirigés par un officier. Alors encore, un film algérien. Enfin, un film algérien comme on en fait en décembre, en 1973, c'est le film Décembre, avec surtout des acteurs français. Un général, Julien Guillaumard soi-même, qui va se résoudre à dédouaner ces hommes qui ont été un peu forts.
Alors, vous lui avez pris la tête entre les mains, vous avez serré trop fort, et la tête a cassé. C'est bien ça?
Non, mon général, pas comme ça.
Racontez-moi ça, je vous écoute.
Eh bien voilà, mon général. Il arrêtait pas de gueuler, mais il disait rien. Pas une broque. Dans notre travail, c'est une chose qui fatigue beaucoup. Mais comment on peut vous dire, il sait.
Continuez.
Il gueulait. Total, on s'est lassé. On a eu le coup de fatigue. Alors, on l'a ramené dans sa cellule, tant qu'on fume une cigarette. Et cette vache d'homme long, il n'en a pas profité pour se casser le crâne contre un mur.
De lui-même, tout seul.
Ah, je vous jure, mon général. Pourquoi nous autres, on irait faire des choses comme ça?
Commandant, vous porterez un motif à ce sous-officier.
En paix.
Qu'est-ce que vous voulez faire de propre avec des croquants pareils?
C'est curieux ce vocabulaire. Dans notre travail de préparation avec Valérie Astaraï, on a appelé ce son Audiard. Mais est-ce que c'est du Audiard ou c'est Audiard imaginé par un scénariste algérien? Les croquants, cette vache de melon.
Difficile de vous répondre, je n'en sais rien. C'est effectivement tout à fait intéressant de voir que l'Algérie aime à se représenter les Français comme ça à ce moment-là, c'est-à-dire avec une dimension aussi de classe sociale, hein, très clairement incarnée ici. Algérie révolutionnaire hein, à ce moment-là. Mais le choix que vous avez fait de ce film est à la fois typique d'un moment qui intéresse la France, c'est-à-dire qu'à la même époque, au début des années 70, on aurait pu prendre L'honneur d'un capitaine de Pierre Schoendoerffer qui traite exactement du même genre de choses, à savoir quelle est la liberté de l'exécutant face à un ordre flou, face à une demande peu claire d'obtenir rapidement des résultats.
Parce que là, le général Julien Guillaumard, il couvre, mais il n'a pas donné d'ordre, alors il faut bien qu'il couvre.
Il a dû donner l'ordre, comme ils le faisaient tous. Non, il a donné l'ordre d'être efficace, d'avoir des résultats. Peu importe les moyens.
Alors, l'opinion française est très touchée par le comportement, en 1957, contraire à celui de Massu. Ce sont deux compagnons de la Libération, le général Paris de Bollardière a peut-être même davantage de médailles issues de la France libre que le général Massu, et le général de Bollardière proteste.
Oui, de Bollardière proteste et surtout il est condamné à 60 jours de forteresse, ce qui est une condamnation extrêmement sévère et on a bien vu dans l'extrait d'avant que précisément la torture n'était pas sanctionnée. Donc c'est le contraste aussi qui est extrêmement fort entre un homme qui prend position pour des raisons à la fois morales et d'efficacité. Et puis la sanction qu'on lui oppose. On pourrait aussi citer Vercors, hein, qui renvoie sa Légion d'honneur à la même époque, et la référence à la résistance est extrêmement présente dans la France à cette époque.
Après la fin de la guerre.
C'est extrêmement présent, c'est vraiment perpétuellement manipulé par tous les camps en réalité.
Et la question du crime par obéissance, elle se pose très nettement, beaucoup plus nettement depuis la Seconde Guerre mondiale. Je vous propose maintenant que vous évoquiez les soldats retour du contingent. On parle des plus jeunes, il y a les vieux de la vieille qui se souviennent de l'Indochine et de la Seconde Guerre, et puis les soldats, ils sont nombreux les soldats du contingent en Algérie à partir de l'été 1956. Et le même problème, après la bataille d'Alger, se posera pour eux. Un film français, celui-là, mais qui fait vraiment exception dans le cinéma français, c'est le film d'Alain Resnais, qui est titré Muriel. Bernard, quand il rentre, parle sans cesse à ses proches en métropole qu'il retrouve, d'une nommée Muriel, qu'il a dû interroger en compagnie de Robert pendant la guerre.
Alors son regard m'a fixé. Pourquoi moi? Puis elle a fermé les yeux. Puis elle s'est mise à vomir. Robert a reculé, dégoûté. Je les ai tous laissés. La nuit, je suis revenu la voir. J'ai soulevé la bâche. Comme si elle avait séjourné longtemps dans l'eau. Comme un sac de pommes de terre éventré. Avec du sang sur tout le corps. Dans les cheveux. Des brûlures sur la poitrine. Les yeux de Muriel n'étaient pas fermés. Ça ne me faisait presque rien. Peut-être même que ça ne me faisait rien du tout. J'ai été me coucher. J'ai bien dormi. Le lendemain matin, avant le salut aux couleurs, Robert l'avait fait disparaître.
Muriel a regardé Jean-Pierre Thierry, qui interprète ici Bernard. Et Muriel, c'est une femme. Il faut aussi qu'on parle du comportement et du rôle des femmes.
C'est bouleversant ce passage, c'est un des films les plus forts à mon sens hein, qui existe sur le sujet. Alors c'est très difficile de choisir de quoi parler, donc je vais évoquer, puisque vous l'avez demandé, le rôle des femmes, mais c'est évidemment pas son vrai nom, hein, il le dit, et il ne sait pas de qui il s'agit, c'est un corps algérien souffrant, hein, c'est un corps de femme algérienne souffrante, Donc, ce qu'on voit dans cet extrait, c'est que les femmes sont aussi arrêtées, les femmes sont aussi torturées. Elles sont, au début de la guerre, c'est ce que j'ai montré, plutôt épargnées, plutôt invisibles en réalité aux yeux des Français. Puis, on commence à comprendre qu'elles sont des ennemis et les bombes qui explosent à Alger sont un élément important de ce tournant.
Milk Bar.
Le Milk Bar notamment.
Septembre 1956.
Et puis aussi, l'autre élément sur lequel on peut s'appuyer en citant Muriel, c'est la disparition. C'est-à-dire que là aussi, on a une pratique qui est portée vraiment à son maximum pendant la bataille d'Alger, la dite bataille d'Alger, c'est-à-dire que les corps sont soustraits. Les gens qui meurent sous la torture, l'idée n'est pas de les faire mourir sous la torture, mais parfois ils meurent, on prend leur corps. Et puis le dernier point, c'est que Bernard est un appelé dans ce film, et Robert est un appelé aussi, son chef. À la différence des parachutistes qui sont mobilisés à Alger, là on touche à quelque chose d'essentiel qui a toujours beaucoup de mal à être entendu en France aujourd'hui, à savoir le fait que des appelés ont pratiqué la torture, et pas simplement des professionnels.
Muriel, Louisette Iguilarise. À la fin du dernier millénaire, elle se manifeste en racontant ce qu'il est advenu d'elle, les tortures qu'elle a subies pendant la bataille d'Alger, et elle évoque un commandant qui l'a soustrait à ses tortionnaires et qu'elle aimerait retrouver. Et le général Massu, 92 ans, dans sa retraite, surgit de son silence et dit « Bah oui, moi je sais qui c'est le commandant Richaud, c'était mon médecin-chef à la 10e division parachutiste. » Et pour la première fois, dans un entretien au Monde, il va dire que la torture, ça n'était pas indispensable.
C'est un passage très important sur cette question de la torture, la déclaration de Massu, vu l'importance du personnage et vu ses déclarations antérieures. Il fait écho à ce que vous avez évoqué tout à l'heure, à savoir les déclarations très récentes des principaux officiers américains en charge de la lutte contre le terrorisme, qui ont tous dit que la torture n'était pas efficace pour ce à quoi elle était censée servir, à savoir obtenir du renseignement, et pour ce à quoi elle sert en réalité, c'est-à-dire à terroriser la population. Donc elle n'est pas efficace. Donc ça, il faut vraiment s'en persuader, il faut le répéter quand on voit aujourd'hui effectivement que des Français, dans un sondage récent, lui accordent un certain crédit, que l'argumentaire de l'urgence est employé en Israël, par exemple, comme étant un argumentaire de justification de méthodes qu'on évite d'appeler torture, mais qui en sont.
Ce sondage que vous évoquez marque quand même que les Français les plus âgés sont plus réticents que les Français les plus jeunes. Est-ce le souvenir des traces qu'ils ont eues, entendues pendant leur enfance, leur adolescence ?
Alors on peut sans doute le lire comme ça, il faudrait regarder le sondage plus en détail. Ce qui me paraît très inquiétant, c'est aussi de regarder les gens qui ont 15 ans et qui donc sont nés après le 11 septembre 2001 et qui finalement ont toujours vécu dans une ambiance de guerre contre le terrorisme, pour qui toutes ces expressions sont des évidences.
Mais à l'époque, on parlait d'événements pendant la guerre d'Algérie qui faisaient énormément de morts. Et aujourd'hui, on nous parle tous les quatre matins de guerre, alors quand même que le nombre de morts est davantage limité. Mais je ne vais pas faire mon registre de Bray. Je cite de nouveau vos livres, Raphaël Branche, La torture et l'armée, c'est chez Folio, Les prisonniers du FLN. C'est aux éditions Payot. À la technique, Mehdi Fatah, la réalisation, Valérie Aïstaraï, Iline Canegulesco, Frédéric Martin, Franck Olivard, pour la préparation de la marche de l'histoire.